C'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte. Ce matin, le nouvel archevêque de Nouméa a présidé la messe des Rameaux en la cathédrale de Nouméa. Monseigneur Susidino Sionepoé a donc été installé comme nouvel archevêque de Nouméa. Hier, des centaines de fidèles se sont rassemblés pour cet événement marquant pour le diocèse. L'Assemblée Générale du Palikat, hier à Point-d'Imier, cette Assemblée Générale a donné mandat aux élus afin qu'ils puissent poursuivre les discussions avec le ministre des Outre-mer. Les recherches qui ont repris dans le département de la Vienne pour tenter de retrouver Agathe, 28 ans, elle n'a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier. Bruno Retailleau veut s'en prendre aux passeurs responsables des arrivées illégales sur le sol français. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur le sujet lors d'un déplacement à Biarritz. Le sport, le football et ça bouge en haut du classement de la Ligue 1 grâce à sa victoire sur Marseille 3-0. Monaco est désormais deuxième devant l'OM. Et puis le sport sur le territoire avec du VTT, le VCC Mont-d'Or organisait son traditionnel souvenir. Didier Portera, une quarantaine de coureurs étaient au départ ce matin à la Tontouta. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité religieuse est chargée en ce week-end en Calédonie. Elle fait bien sûr la une de l'actualité. Dans un instant, nous reviendrons sur l'installation hier de Monseigneur Susidino Sionepoé comme archevêque de Nouméa. Monseigneur Sionepoé qui, ce matin, a célébré en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa la messe du dimanche des Rameaux. Un dimanche important dans le calendrier liturgique puisqu'il marque l'entrée dans la semaine pascale qui se terminera donc dimanche prochain avec Pâques. Écoutez le nouvel archevêque de Nouméa, Monseigneur Sionepoé.
Les célébrations sont toujours des moments forts, particulièrement cette célébration des Rameaux qui fait entrer toute l'Église à vivre pleinement cette semaine sainte. Donc c'est pour moi une grande joie de continuer cette fonction en tant qu'archevêque avec les fidèles dans la célébration des Rameaux. Le message bien clair que nous avons tous entendu sur les lectures et tout plus particulièrement la lecture de la Passion. Donc c'est une invitation à tous les fidèles d'avoir un cœur rempli de joie pour suivre les pas de Jésus et vivre avec lui pleinement ce qu'il va accomplir, c'est-à-dire donner toute sa vie en offrant lui-même sur la croix et la résurrection. Donc j'invite tous les fidèles à mettre nos pas sur les pas de Jésus.
Et pour les fidèles qui étaient très nombreux ce matin à la cathédrale de Nouméa, ce dimanche de Rameaux est un jour extrêmement important.
Le dimanche de Rameaux, c'est aussi une grande fête pour nous. C'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Le message de Monseigneur Susidino, sa première messe.
Appréciez son message, c'est comme si son premier messe aujourd'hui. Ben, nous sommes heureux de l'accueillir et puis d'écouter ses paroles.
Dimanche Rameaux, c'est une présentation d'accueillir le Christ, mais aussi demander pardon. C'est la repentance, c'est l'espérance qu'il y a derrière. Voilà, on pense à tous nos soucis, nos familles.
Dimanche de Rameaux, c'est un événement en allant vers la Pâque.
Le dimanche de Rameaux, c'est la rentrée de la Semaine Sainte. On prépare la Pâque.
Des propos recueillis ce matin par Kalinda Boicou. Revenons donc maintenant sur l'installation de Monseigneur Sionepoé comme archevêque de Nouméa. C'était hier après-midi en présence de plusieurs centaines de fidèles qui étaient réunis à la cathédrale Saint-Joseph. Célébration qui a débuté sur l'esplanade de la cathédrale. 11 évêques, parmi lesquels Monseigneur Calvet et son successeur, Monseigneur Sionepoé, mais aussi 25 prêtres, 18 diacres et 9 enfants de chœur dans leurs habits liturgiques blancs ont formé la procession qui est entrée dans la cathédrale. C'est Monseigneur Calvet qui a ouvert la célébration et Monseigneur Riocreux, ancien curé de la cathédrale de Nouméa, est venu exprès pour l'occasion, a lu un message de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. C'est le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Riocreux, qui a rappelé l'importance de cette célébration.
Immense, immense par la signification, parce que donc au terme de ce long épiscopat de Monseigneur Calvet, Monseigneur Susidino, bien connu ici, a été accueilli dès sa nomination en janvier dernier, mais là, il a été, au cours de la célébration solennelle, c'est des événements rares, c'est la raison pour laquelle aussi il y a un nombre important d'évêques, et immense aussi en raison de la situation même dans laquelle se trouve la Calédonie, et nous sommes au cœur de cette année jubilaire, ça a été rappelé par le thème même, pèlerin d'espérance. Ça prend son sens ici, avec cette belle diversité de la Calédonie, avec ce qu'on a vécu, mais cette espérance qui est apportée par le Christ, qui est notre espérance.
Et après cette intervention de Mgr Riocreux, est venu le temps de l'installation officielle de Mgr Sione Poé. Mgr Calvet a invité à la lecture de la bulle pontificale écrite le 14 janvier dernier par le pape François, adressée à son successeur pour lui annoncer sa nomination à la tête du diocèse de Nouméa. Une bulle pontificale lue par le père Ngo et faisant officiellement de Mgr Sione Poé le nouvel archevêque de Nouméa. Mgr Sione Poé a ensuite prononcé sa première homélie pour commenter comme il se doit les lectures du jour. La célébration, qui a duré un peu plus de 2 heures, et s'est conclue par la prise de parole du nonce apostolique, le représentant du pape dans le Pacifique. Et à l'issue de la cérémonie, Mgr Pinter est revenu sur l'épiscopat de Mgr Calvet, qui aura passé donc 44 ans à la tête du diocèse de Nouméa.
Nous avons parlé avec Mgr Calvet, que c'est déjà 2 générations qui ont vécu pratiquement avec lui. Et je sais qu'il y a très peu de gens ici qui ont vu quand il a été installé il y a 44 ans. C'est une grande fête et une grande joie pour nous tous, parce que, avant tout, pour remercier à lui, qu'il a fait un service fantastique, comme je dis déjà après la messe, que le Saint-Père a reconnu aussi ce service fantastique. C'est un record, je pense. Je pense que c'est un record. Et maintenant, nous avons aussi la joie d'avoir un pasteur nouveau qui va continuer le chemin de Mgr Calvet.
Le haut-commissaire Louis Lefranc a assisté à la cérémonie hier, ainsi que la présidente de la province sud, Sonia Baquès, la présidente du Congrès, Velma Falaeo, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, celui du Mont-d'Or, Edilio Courrieux, le sénateur Georges Naturel ou encore Rocco Amitan. Présent également le général Latil, commandant supérieur des FANC, et le général Mathéos, commandant de la gendarmerie, mais également de nombreuses personnalités de la vie civile et de nombreux fidèles, bien évidemment.
Très ému. Il est venu sur Yaté. Je suis très fière parce que c'est lui qui a baptisé mon fils aussi.
Ah, c'était magnifique. Mais comme c'est pas tous les jours, alors du coup, on a trouvé l'occasion pour venir.
Avec joie. J'étais au milieu de la chorale, alors ça pouvait être que bien. Chanter, prier, avec tout le monde autour de soi en train de chanter, c'était magnifique. 44 ans que c'était pas arrivé. Et puis, Mgr Calvet, je l'ai connu à Blaise Pascal quand il était arrivé comme professeur. Et puis là, je salue son départ et l'arrivée d'un nouvel évêque qui, lui, est océanien. Mais c'est magnifique.
Ça arrive peut-être une fois ou deux dans sa vie. Hein. Donc, il faut en profiter.
Tout content, quoi. Parce qu'on a été tous pour l'ordination à lui à Wallis. Et là, il est revenu ici. On est encore tous là, tout complet, toute la famille.
Et à la veille de l'installation de Mgr Sione Poé, c'est Mgr Michel Calvet qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. 24 heures avant l'installation de son successeur, Mgr Calvet a été interrogé sur les 44 ans qu'il a passé à la tête du diocèse de Nouméa, Léo Fichou.
Plus jeune évêque de France quand il est nommé en 1973, à seulement 35 ans, Mgr Calvet bat également un record de longévité en ayant occupé pendant plus de 4 décennies les fonctions d'archevêque de Nouméa, une période marquée par de nombreux événements et temps forts, mais s'il faut en garder un, Mgr Calvet évoque le 150e de l'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie qui a été célébré en 1993.
Un moment extrêmement important qu'on avait décidé de mettre en valeur, le 150e anniversaire de la première messe célébrée à Balade par les premiers missionnaires qui arrivaient, donc avec le minimum qui était possible pour des gens qui ont commencé l'évangélisation dans cet endroit et qu'on a célébré 150 ans après à la fête de Noël. C'était le jour même de la fête de Noël 1993 et nous avons pu célébré avec des invités. Les gens du Nord s'étaient rassemblés. Il y a eu une rencontre à Mahamat qui était assez extraordinaire avec les coutumiers qui ont porté aussi une parole qui était forte, qui était reprise. Pour la petite histoire, on sait que ce qu'on a appelé le pardon de Balade sur la plage de Mahamat a été utilisé par ceux qui ont rédigé le préambule de la fameuse loi référendaire sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.
De l'accord de Nouméa.
De l'accord de Nouméa.
L'histoire et la religion sont intimement liées en Nouvelle-Calédonie puisque le territoire a été évangélisé avant la colonisation et l'archevêque de Nouméa s'est beaucoup intéressé à cette histoire.
J'ai souvent insisté sur le fait que, effectivement, la rencontre entre la religion et la coutume s'est faite avant la rencontre entre la coutume et l'État. En Nouvelle-Calédonie, les protestants sont arrivés d'abord, particulièrement aux îles Loyauté. Et puis les catholiques sont arrivés ensuite, là où les protestants n'avaient pas pu s'installer. ils ont commencé leur travail d'accoutumance, d'évangélisation et également travail au service de la population, c'est-à-dire enseignement, c'est-à-dire dispensaire, c'est-à-dire toutes sortes de choses de ce genre. Et le premier évêque, Monseigneur Douard, mon premier prédécesseur, était déjà mort depuis plusieurs mois lorsque a eu lieu la prise de possession le 24 septembre 1853.
Monseigneur Calvé, interrogé également sur la violence insurrectionnelle qui a frappé la Calédonie il y a près d'un an, c'était en mai 2024. Mais comment explique-t-il la folie destructrice qu'a connue le territoire ?
J'ai essayé d'analyser, essayé de comprendre dans un premier temps, surtout quand c'est les églises qui ont été elles-mêmes attaquées, ça s'était jamais vu, de comprendre que la volonté de nuire était une chose évidente. Ça, j'avais pas besoin qu'on m'explique deux fois. Ensuite, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai eu aucune réponse de la part, réponse probante de la part de ceux ou des milieux qui pouvaient être à l'origine de pareilles choses. Et puis finalement, je me suis dit, mais peut-être que c'est précisément parce que les églises sont des endroits où tout le monde était bienvenu, où les gens pouvaient se rencontrer. C'est pour ça qu'elles ont été attaquées. Et c'est plus grave encore que je ne pensais. Ça veut dire que symboliquement, eh bien, c'était une manière d'empêcher une réconciliation. Et donc, je pense qu'on a à tenir compte de cela et à ne pas l'accepter.
Après 44 ans dans ses fonctions, Monseigneur Calvé a été remplacé par Monseigneur Susitino Sionepoe, dont la cérémonie d'installation avait lieu hier après-midi. Il le connaît bien et il nous a dit quelles devraient être, selon lui, ses priorités.
Il faut qu'il arrive à rencontrer le plus de monde possible pour montrer que sa mission, c'est une mission qui s'étend à l'ensemble du diocèse et les gens qui sont à l'intérieur de l'Église, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Ça, c'est une première chose. Le souci, comme je le disais, de la jeunesse. On a à faire extrêmement attention à cette jeunesse qui nous est confiée, aux besoins de laquelle on a répondu pour une part, mais pas toutes. Et donc ça, il va falloir continuer avec l'enseignement catholique, en dehors aussi de l'enseignement catholique, s'intéresser de près à ce qui peut être fait pour la jeunesse. Et donc il a un âge qui est déjà meilleur que le mien pour ce faire.
Une interview de Monseigneur Calvé qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45, et qui est aussi disponible en audio sur notre site internet.
Et venons-en à l'actualité politique avec l'Assemblée Générale du Palika qui s'est tenue hier à la tribu de Saint-Thomas. À Point-d'Imier, le parti devait faire notamment le point avec ses militants sur la campagne d'explication engagée avant la dernière séquence de discussion à Nouméa, sur les discussions et les négociations qui sont en cours, mais aussi sur la situation institutionnelle. Judikael Selefen est le porte-parole du Palika.
Il y a des éléments de débat, par exemple, sur la trajectoire. La question aujourd'hui qui fait débat, c'est l'autodétermination au bout. Dans le projet que l'État a livré, il y a prévu un référendum d'autodétermination sur un projet, chose que nous partageons tous autour de la table. Maintenant, la question, c'est la question de la durée. Donc, c'est un des sujets que l'Assemblée générale a alerté en disant, nous, on souhaite que cette durée ne soit pas trop longue. Il y a des alertes qui concernent la répartition des sièges au Congrès, qui est un sujet. Donc l'Assemblée générale a rappelé que la répartition des sièges au Congrès relève d'un parcours historique et politique qui ne doit pas aujourd'hui être remis en cause. Donc c'est ça les points de vigilance que l'Assemblée générale a relevé. Donc voilà, on a quand même certains points, mais on se satisfait du fait que tous les éléments qu'on considère comme constitutifs de la trajectoire pour l'accession à l'indépendance sont présents dans la discussion. Et le débat est ouvert sur chaque point.
Et cette Assemblée générale a également donné mandat aux élus afin qu'ils poursuivent les discussions avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et qui est attendu en Calédonie à la fin du mois. On retrouve Judikael Selefen.
C'est assez satisfaisant. Ça permet à l'Assemblée générale d'acter le point d'étape et de dire on continue, on poursuit, puisque la stratégie de dialogue pour aller chercher un consensus, elle semble porter ses fruits. Donc il faut continuer. Donc on s'inscrit dans ce qui a été fait jusqu'ici depuis 2022. Et à l'approche de l'arrivée des ministres, l'Assemblée générale dit on continue et puis on s'engage à être présent dans les discussions, déjà avec les travaux en cours qu'on fait avec le cabinet, mais lorsque le ministre reviendra, l'Assemblée générale a engagé les camarades militants à poursuivre les discussions.
Judikael Selefen, le porte-parole du Palika, joint au téléphone hier par Kalinda Bouakou. Il est midi et pratiquement 15 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Bah, tu étais où?
Avec Max, à la maison.
Max? Mais c'est qui Max?
Ben Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois? Ah ouais, c'est génial!
Ben, allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficiez d'un tarif remis à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Lionel Sabon.
Et l'actualité en métropole pour commencer. Agathe, 28 ans, disparue depuis jeudi matin alors qu'elle faisait son jogging dans le département de la Vienne, est toujours portée disparue. Un important dispositif de recherche, vous le savez, a été déployé et un appel à témoins a été diffusé. Les recherches se poursuivent dans la zone où la jeune femme a disparu. Des recherches qui ont pris une évolution nouvelle dans la méthode utilisée. Stéphane Place pour Europe 1.
Ce matin encore, plus d'une centaine de gendarmes auxquels s'ajoutaient 25 soldats d'un régiment de Poitiers menaient des recherches sur cette vaste zone boisée, très dense, 100 km2 survolés aussi par l'hélicoptère doté d'une caméra thermique. Mais au fil des heures, progressivement, cette phase recherche-terrain, avec cette énorme mobilisation de personnel, de bénévoles également, laisse la place à une approche plus axée sur les vérifications. En clair, l'enquête se focalise désormais sur des points précis en croisant l'exploitation de la téléphonie, bornage, relais, les auditions de proches et de témoins. Une trentaine de personnes s'est manifestée depuis l'appel lancé hier, indique le parquet. Autant de renseignements qu'il faut analyser. Alors le déploiement a été ramené dans l'après-midi à 50 gendarmes. Désormais, ce sont des investigations davantage ciblées, de nouveaux ratissages, notamment sur le parcours habituel de jogging de cette jeune femme de 28 ans, ont été effectués. Et toujours dans le cadre de cette enquête pour disparition inquiétante, la brigade nautique sonde le clin ainsi que plusieurs points d'eau. Ce soir, la disparition d'Agathe, dont on est sans la moindre nouvelle, vous le disiez depuis jeudi, reste un mystère et aucune hypothèse n'est écartée à l'heure actuelle.
Ouais, Stéphane Place dans la Vienne pour Europe 1. Dans l'actualité de ce dimanche midi également, Bruno Retailleau en déplacement à Biarritz. Il a tenu un meeting dans le cadre de la campagne pour l'élection à la présidence des Républicains, mais il a également évoqué en marge de ce meeting le thème de l'immigration clandestine, une question très urgente aux yeux du ministre de l'Intérieur qui veut s'en prendre aux passeurs responsables de ces arrivées illégales sur le sol français. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Bruno Retailleau l'a redit hier, il veut mettre tous les moyens possible pour lutter contre les réseaux d'immigration clandestine. Pour cela, le ministre de l'Intérieur a d'abord insisté sur le rôle de la force frontière créée il y a quelques mois qui regroupe la police, la gendarmerie et les douanes. Des premiers effectifs de cette unité ont d'ailleurs été déployés il y a quelques jours près de la frontière espagnole. Et selon Bruno Retailleau, il y a déjà des résultats encourageants.
Nous avons mis en place la force frontière. Il y a eu une méthode opérationnelle qui a été testée ici, c'était à la fin du mois de mars. 350 effectifs ont pu être déployés avec l'interpellation de 144 étrangers en situation irrégulière.
Autre point clé de la lutte contre l'immigration clandestine, selon Bruno Retailleau, la cellule CERTIM. Il s'agit d'une cellule qui regroupe trois ministères, l'intérieur, l'économie et la défense, créée récemment par le gouvernement. L'objectif est de pouvoir croiser les renseignements pour être plus efficace dans la traque des passeurs. Une première antenne de cette cellule a été ouverte près de la frontière espagnole récemment et d'autres devraient voir le jour sur toutes les frontières françaises dans les prochains mois, selon Bruno Retailleau.
Le ministre de l'Intérieur qui a également, lors de ce déplacement à Biarritz, évoquer cette affaire qui interroge dans un contexte tendu entre la France et l'Algérie. Un influenceur algérien hostile au régime d'Alger aurait été enlevé et séquestré en métropole il y a un an. La justice prend les choses très au sérieux et trois hommes soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement de cet influenceur ont été mis en examen. Écoutez Bruno Retailleau.
La situation est grave, tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. non pas parce qu'il y a un acte de terrorisme, mais parce que c'est un acte sans doute d'ingérence étrangère. Je laisse l'autorité judiciaire et je connais le grand professionnalisme du parquet national antiterrorisme pour démêler les fils de cette affaire.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un déplacement à Biarritz. L'actualité dans le monde à présent et à chaque jour son rebondissement sur les droits de douane. Les États-Unis annoncent infléchir leur position en exemptant les smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières imposées par l'administration Trump à la Chine. Une annonce dans un contexte de surenchère justement avec la Chine, à l'encontre de laquelle les taxations atteignent désormais 145%. Pékin qui a répliqué, entraînant la colère du président américain. Situation de tension et de blocage qui pourrait peut-être bénéficier à l'Union européenne. Baptiste Morin pour Europe 1.
Les États-Unis se replient sur eux-mêmes. La Chine, deuxième puissance mondiale, peut évidemment en profiter. Mais elle peut aussi souffrir de cette guerre commerciale. Surtout que Pékin fait face à une crise de la consommation. La Chine aura forcément besoin de l'Europe pour écouler tout ou partie des 400 milliards de dollars de biens qu'elle exportait jusqu'à maintenant vers les États-Unis. Pour Jean-Marie Cardeba, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux, les Chinois ont besoin des Européens et il faut en profiter.
Ils sont encore plus perdants dans cette histoire que quiconque finalement, et notamment que les Européens. C'est pour ça que ça ouvre une fenêtre assez intéressante pour aller négocier avec eux et les amener peut-être à plus de raison aussi dans un rééquilibrage des échanges avec l'Europe.
Car à ce stade, la Chine exporte plus de deux fois plus vers l'Europe qu'elle n'importe du vieux continent. Un déficit commercial de plus de 300 milliards d'euros pour Bruxelles, auxquelles s'ajoutent des pratiques chinoises jugées déloyales. S'il a lieu, le développement des échanges commerciaux avec Pékin devra donc se faire sur de nouvelles bases.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et puis la Maison Blanche parle d'un pas en avant et de pourparlers très positifs et constructifs. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien ont débuté à Oman. Il s'agit des premiers pourparlers entre les deux pays depuis 2018, lorsque Donald Trump s'était retiré de l'accord de Vienne. Des discussions indirectes aux enjeux considérables après la menace américaine de recourir à une opération militaire en l'absence d'accord. Il est midi et 22 minutes. Une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va parler football pour commencer avec du changement. Léo Fichu sur le podium de la Ligue 1.
En écrasant l'OM 3-0, Monaco s'est emparé de la deuxième place au profit des Marseillais, désormais troisième. Lille est quatrième après sa victoire sur Toulouse 2-1. Les Niçois qui dépassent Strasbourg et Nice. Les deux clubs se sont quittés dos à dos, 2-2 ce matin. Strasbourg est cinquième, Nice sixième. La nuit prochaine, quatre rencontres au programme Saint-Étienne-Brest, Angers-Montpellier, Le Havre-Rennes et Auxerre-Lyon. Je rappelle que le match entre Nantes et le PSG a été décalé au 23 avril.
Du rugby et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est qualifié ce matin pour les demi-finales de la Champions Cup.
L'UBB a largement dominé le Munster, le score 47-29. En demi, les joueurs de Bordeaux-Bègles seront opposés à Toulon ou à Toulouse, les deux équipes qui s'affrontent à 1h la nuit prochaine. En revanche, l'aventure européenne s'arrête pour le Castres Olympique, défait par les Saints de Northampton 51-16. Northampton qui a affrontera le Leicester en demi-finale.
Et chez les dames, on notera la victoire du 15 de France sur le Pays de Galles lors de la troisième journée du tournoi Destination. Les tricolores sont imposés 42-12 et poursuivent leur sans faute, mais restent en deuxième position derrière l'Angleterre qui s'est imposée sur l'Irlande. La nuit prochaine, l'Écosse accueillera l'Italie. Du tennis, on connaît l'affiche de la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, Léo.
Oui, c'est Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2, qui défiera Lorenzo Musetti, l'Espagnol qui a dominé son compatriote Alejandro Davidovich Fokina en demi-finale. L'Italien, de son côté, a dû batailler en 3-7 pour sortir l'Australien Alex de Minor. La finale est prévue à 21h ce soir.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec la quatrième manche du championnat du monde et c'est Oscar Piastri, l'Australien, qui s'élancera en pole position du Grand Prix de Bahreïn.
Et oui, le pilote McLaren a devancé George Russell, mais le pilote Mercedes et son coéquipier Kimi Antonelli ont été sanctionnés pour manœuvre illicite dans les stands. C'est donc Charles Leclerc qui sera sur la première ligne aux côtés d'Oscar Piastri. George Russell partira troisième, Pierre Gasly quatrième devant Kimi Antonelli. On écoute le Français.
Ah non, c'était vraiment très très bon tour. Je suis vraiment très content parce que ça a commencé en Q1, j'étais pas du tout à l'aise avec la voiture. On a fait un très très gros step à chaque fois pendant la séance et j'arrive à faire un super bon tour en Q2. Je pense qu'il m'a bien aidé après pour la Q3 pour la continuer sur cette lancée. Et non, c'est sûr, on finit à 4 centièmes du top 3. Je savais que c'était un très très bon tour. Après, de là à nous mettre aussi proche de devant, je m'y attendais pas forcément.
Notez qu'Isaac Hadjar partira de la 12e position, Esteban Ocon de la 14e. Le départ du Grand Prix de Bahreïn, c'est à 2h la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
En moto, on notera les bonnes performances des Français lors des qualifications du Grand Prix du Qatar. Fabio Quartararo est sur la première ligne aux côtés des frères Marquez. Il s'élancera de la 3e position. Johan Zarco partira, lui, de la 7e place. Rendez-vous pour ce Grand Prix juste après la Formule 1. Ce sera à 4h la nuit prochaine. Et puis, quand on enlève le moteur d'une moto, ça s'appelle un vélo, on va parler cyclisme au féminin avec une victoire française sur le Paris-Roubaix. 8 mois après son titre olympique en VTT à Paris, Pauline Ferrand-Prévot a remporté l'Enfer du Nord pour sa première participation à la course. La Française a tout simplement survolé la reine des classiques. Christopher Filoc pour Europe 1.
Pauline Ferrand-Prévot, monumentale, bras levés, sourire de circonstance au moment de passer la ligne. Malgré une chute à 54 km de l'arrivée, la Française n'a jamais levé le pied et a surpris les favorites, plaçant une attaque à 25 km de l'arrivée, reléguant les poursuivantes à 1 minute. Un succès majuscule pour la Française.
C'est assez incroyable, j'arrive pas trop à réaliser pour le moment. Je suis allée à fond jusqu'à l'arrivée et voilà, remporter cette victoire, c'est vrai que c'est assez inespéré et c'est jamais fini. Donc même quand on chute, il faut toujours donner le meilleur de soi-même et puis je suis contente que ça ait fonctionné aujourd'hui.
La Rémoise de 33 ans succède à Frédéric Guédon, dernier vainqueur tricolore sur le Paris-Roubaix en 97. Pauline Ferrand-Prévot qui fait son retour sur le bitume cette saison après une longue parenthèse de 7 ans consacrée au VTT ajoute un exploit de prestige à un palmarès déjà bien rempli. Le pavé remis au vainqueur va donc pouvoir rejoindre celui de son compagnon Dylan Van Baarle, victorieux de Paris-Roubaix en 2022.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1, du cyclisme encore sur la piste cette fois-ci avec 3 Calédoniens, Léo, qui participaient ce samedi à la journée du sprint, c'était à Châteaubriant.
Hervé Salin a remporté le Kérin et la vitesse, il a également terminé deuxième du 200 mètres lancé. Louise Chavitz s'est classée elle troisième féminine sur la vitesse après avoir réalisé là aussi le troisième temps du 200 mètres lancé. Il y avait un troisième Calédonien, Paul Roy, qui est plus spécialiste de la longueur de l'endurance. Il a tout de même réalisé le 16e temps sur le 200 mètres lancé.
D'autres Calédoniens en dehors du territoire, ils étaient engagés ces derniers jours à la Pacific Cup Senior et à l'Océania Junior d'haltérophilie.
Oui, 4 athlètes du territoire étaient effectivement depuis quelques jours en Australie. Ils ont décroché 3 médailles d'argent, une pour Warren Sadiman et 2 pour Mathis Sacco.
Et les sports sur le territoire à présent avec du VTT, c'était ce matin du côté de la Tontouta.
Le VCC Mont-d'Or organisait son traditionnel souvenir Didier Portera. Ils étaient une petite quarantaine au départ d'une boucle de 8,3 km au bord de la base aérienne de la Tontouta. Une boucle à effectuer entre 1 et 4 fois selon les catégories des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes. Les détails de Renato Fortera, président du VCC Mont-d'Or.
36 partants, qui apprécient le parcours apparemment, même si difficile. Le plus jeune a 13 ans, le plus âgé doit avoir plus de 60 ans, facile. Il fait un temps pourri sur Nouméa, mais ici à Tortuta, voilà, temps splendide, il fait beau, limite chaud, mais parfait pour faire du vélo. Il y a deux difficultés sur le parcours, il y a deux bonnes montées. Après le reste, c'est des singles sous des arbres, donc ça va très bien. C'est un peu technique, ceux qui n'ont pas la technique, forcément, ils vont perdre du temps dans les singles. Et ceux qui n'aiment pas les montées, ben, malheureusement, les deux montées risquent d'être difficiles pour eux. Donc le principal, c'est de faire plaisir aux coureurs quand on organise une compétition. Et on a quand même passé quelques journées de broussailleuse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas passé du temps pour rien.
Et les premiers arrivés, ce sont les plus jeunes, les U15. Les moins de 15 ans n'avaient qu'un seul tour de 8,3 km à effectuer. On les écoute à l'arrivée.
Bien, le circuit très très dur. Avec ces grandes montées et les étapes un peu techniques.
Bon, c'était une compétition qui était quand même relativement dure. Elle était assez variée. Il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait de la montée, de la descente, plus ou moins technique. Même si c'était plus physique que technique, c'était plutôt sympa, ouais.
C'était dur les montées. Il y avait des petites crevasses, du coup, on tombait parfois dedans.
Oh, bah, je trouvais qu'elle était vachement dure, surtout avec le soleil, la chaleur. Et ouais, sinon, ouais, il y avait des montées, elles étaient vraiment à pic. Donc c'était super dur.
Enfin, c'est surtout que les montées, elles sont jamais à l'ombre. Les plus dures, elles sont en plein cagnard, donc ça fait mal au crâne.
Et il n'y a que de l'herbe. Du coup, bah, comme l'herbe, ça ralentit encore plus, c'est bah, vachement dur, quoi.
Chez les U15, c'est Eden Pamar qui s'est imposé. Victoire de Tchad Charret chez les U17. Alix Doudet s'impose chez les hommes. Et enfin, chez les dames, c'est Jessica Bélangué qui l'emporte.
Restons dans la nature avec l'OSEF Full Moon Trail. C'était hier soir du côté de Nessadiou.
Ils étaient 500 coureurs au départ de ce rendez-vous proposé en nocturne par Challenge Organisation. Deux courses proposées au départ de la cabane du pêcheur, 4,5 km et 12,5 km. Retour sur cette soirée avec Laure Papin, l'une des organisatrices.
On a une belle victoire sur le 12 km de Gabrielle Espada en 48 minutes 49. Et chez les féminines, c'est Emmanuelle Favard qui remporte le 12 km en 1,02. Sans une goutte de pluie, à la lumière de la lune et des frontales. C'était vraiment une superbe édition dans une super ambiance avec beaucoup d'esprit de solidarité entre les trailers, d'esprit de partage. Et puis là, on a enchaîné sur un barbecue avec les produits de l'OSEF et puis une soirée dansante. Et c'était vraiment un bon moment. On est contente de retrouver cet esprit-là sur les trails cette année.
Et Challenge Organisation qui sera de retour le mois prochain, le dimanche 4 mai, ce sera le coup de trail à la fois.
Il est midi et 32 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Passez une belle après-midi sur Radio Rythme Bleu. À tout à l'heure.